Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, sommes-nous condamnés à vivre dans l'urgence ? Rien ne sert de partir à point, il faut courir. Dans tous les domaines, ou presque aujourd'hui, l'urgence est de mise. La plus inquiétante, car la plus massive et la plus irrémédiable, est l'urgence climatique. Les experts le répètent et l'ont encore dit lors de la COP24 qui vient de s'achever en Pologne. C'est maintenant qu'il faut agir pour éviter d'aggraver la catastrophe. Bientôt, il sera trop tard. Mais l'urgence est aussi économique et sociale. Emmanuel Macron l'a décrété lundi dernier pour répondre à la crise des gilets jaunes. Une façon de dire « je vous ai compris » et de promettre d'agir vite. Du côté des manifestants, l'urgence est d'un autre ordre, c'est celle des fins de mois. À vrai dire, elle se glisse partout. C'est elle qui donne le rythme dans le monde du travail. L'acronyme ASAP est devenu une marque de ponctuation. C'est elle qu'on convoque pour répondre à la menace terroriste. Et c'est sous le signe de l'urgence permanente que fonctionnent désormais les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux. Alors, sommes-nous condamnés à vivre dans l'urgence ? C'est le thème de la discussion de ce soir en compagnie de trois invités. Christophe Bouton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez publié cette année aux éditions du CNRS « Temps de la nature, nature du temps » et vous l'avez fait avec Philippe Huneman. Et puis un ouvrage un peu plus ancien aux éditions du Bordelot, c'était en 2013, « Le temps de l'urgence ». Pour discuter avec vous de l'urgence et de la notion du temps, il nous fallait un historien. C'est Sébastien Ledoux, bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant à Sciences Po, centre d'histoire sociale également du XXe siècle de Paris 1. Paris 1, c'est Panthéon-Sorbonne. On vous doit, en 2016, aux éditions du CNRS, « Devoir de mémoire, une formule et son histoire ». Et puis vous avez signé pour le site de Libération une chronique, il y a quelques jours de cela, intitulée « Fin du mois ou fin du monde, une défiance de temporalité ». Notre troisième invité est au téléphone, il s'agit de Claude Almos. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychanalyste, on peut vous retrouver chaque semaine le samedi matin sur France Info pour votre chronique « C'est dans ma tête ». Les horaires précis 6h51 et 8h21. Vous tenez également une rubrique mensuelle pour le magazine Psychologie qui fait que vous vous êtes intéressé d'assez près justement à cette question des gilets jaunes puisque ce sont des questions qu'on vous pose régulièrement sur ce sujet. Et puis j'évoquerai un de vos ouvrages qui me semble être celui qui est le plus en lien avec notre sujet de ce soir, Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Ouvrage que vous avez publié en 2014 chez Fayard. Alors je voudrais qu'on commence la discussion en s'intéressant à ce mot urgence, à la place qu'il a peut-être et à sa capacité à définir en partie l'époque dans laquelle nous vivons. Est-ce que déjà vous seriez d'accord avec cette première proposition, Christophe Bouton ?
Oui, tout à fait. Je m'étais demandé, au fond, quel était le terme qui caractérisait le mieux notre rapport au temps, disons, aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Et on tombe sur la notion d'accélération, la notion de court terme, et très vite sur le mot urgence, qui revient tout le temps, et qui semble être le mode par défaut de notre rapport au temps. Et alors, j'ai essayé de creuser un peu le sens, que ça veut dire beaucoup de choses de cette notion. Urgence veut dire se presser, ça vient du latin urgere, c'est on doit se presser, on doit aller vite. Et ensuite ça se décline alors dans plein de domaines. Aujourd'hui, bon, vous avez l'urgence climatique, mais il y a aussi une urgence sécuritaire, une urgence politique, le fait que les hommes politiques semblent agir aussi eux-mêmes que sous l'effet de l'urgence et dans l'urgence. Et vous avez aussi une urgence économique et sociale, une urgence dans le monde du travail. L'idée qu'il faut faire, je dirais que l'impératif de l'urgence, c'est que faire le maximum de choses en un minimum de temps.
Claude Almos, l'urgence comme terme, parmi d'autres bien entendu, pour définir notre époque.
Oui, mais on pourrait aussi... Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. On pourrait aussi parler de toutes ces histoires de qui me fascinent, moi, quand les termes me fascinent comme scénariste, temps libre, temps mort, hein, parler de temps mort, par exemple, comme si le temps n'était vivant que quand il est complètement rempli, ou de temps libre, comme si le reste du temps, et c'est sans doute vrai, on était prisonnier. La question de l'urgence, c'est quand même, on la ressent quand on est psychanalyste, parce que souvent on nous demande des rendez-vous en urgence. Alors pour le corps, c'est un peu moins difficile d'apprécier l'urgence. En général, quand on est psychanalyste, on se méfie un petit peu de l'urgence parce qu'elle est souvent contradictoire avec le travail. C'est-à-dire que ce qu'on fait, et peut-être que c'est aussi ce dont on va parler ce soir, c'est de différencier l'urgence dont on ne peut pas se passer parce qu'elle a une base tout à fait réelle, et l'urgence dont on pourrait se passer parce qu'elle ne mène pas à grand-chose, ou bien parce qu'elle est plus imaginaire que réelle.
Alors on va voir effectivement justement dans cette discussion comment est-ce qu'on peut faire pour distinguer les urgences qu'ils sont vraiment de celles dont on pourrait peut-être se dispenser. C'est vrai qu'à accoler ce terme à tout un tas de sujets, on finit un petit peu par s'y perdre. Mais pour conclure ce premier tour de table avec vous, Sébastien Ledoux, on a l'impression donc que peut-être que on vit dans une époque qui est dominée par ce sentiment d'urgence. Mais peut-être que si on regarde du côté de l'histoire, on peut se rendre compte que finalement l'urgence est aussi quelque chose qui rythme les sociétés humaines. Ou pas?
Alors c'est difficile évidemment à dire comme ça. Je dirais que puisqu'on a parlé d'accélération, effectivement l'urgence est aussi tout à fait liée à cette question d'accélération du temps et à cette impression, parce que c'est aussi subjectif, il y a une donnée subjective là-dedans, à cette impression que le temps s'accélère. Et si on voulait donner un peu d'épaisseur historique à travers cette notion-là, on pourrait dire que là, pour le coup, on n'est pas dans une nouveauté, finalement. On a eu cette impression d'accélération des temps à différentes périodes, notamment, évidemment, sur cette ouverture du temps sur l'histoire à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, avec la Révolution française notamment, et avec la Révolution industrielle, où on avait vraiment l'impression d'un temps qui s'accélérait, et un temps de rupture par rapport à la période précédente, d'un temps immuable, d'une société d'ancien régime, etc. Donc, moi, je pourrais effectivement caractériser tout à fait cette époque contemporaine comme aussi le temps de l'urgence, mais il faudrait évidemment dissocier, parce que là, en tout cas dans votre introduction, hein, sur le par exemple sur l'urgence économique et sociale, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de répondre au mouvement des Gilets jaunes, très clairement, hein, de la part d'Emmanuel Macron. On est vraiment plutôt là dans une priorité, enfin dans une sorte de communication politique qui donnerait priorité à quelque chose qui n'aurait pas eu lieu avant, et c'était justement ça que soulevait le mouvement des Gilets jaunes.
C'est justement la question que j'allais vous poser à vous trois, et à commencer par vous, Christophe Bouton. C'est d'ailleurs, est-ce que en mettant sous le même terme le social, l'économique, la sécurité, le climat, l'information, le terme urgence, est-ce qu'on parle des mêmes choses ou bien tout dépend de la façon dont on l'utilise? C'est vrai que quand Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence économique et sociale, ça ne veut pas forcément dire la même chose que quand des scientifiques décrètent, parlent d'une urgence climatique.
Oui, bien sûr. En fait, il y a même dans le langage politique depuis quelques années une rhétorique de l'urgence, soit pour faire passer des réformes le plus vite possible, donc avec le moins de réflexion d'opposition, soit pour justifier des réformes prises aussi sans concertation. Donc il y a une rhétorique de l'urgence. Maintenant, je pense que une notion présente dans ce concept d'urgence qui revient souvent, mais qui n'est pas mise en avant assez à mon avis, c'est que l'urgence signifie toujours, quand elle est authentique, l'idée d'une menace ou d'un danger. Si vous prenez l'urgence médicale, le SAMU, le SMUR, pour prendre un sens qui fait consensus, il y a urgence, vous avez un danger, il faut éviter ce danger par des processus, des protocoles, des ambulances, etc. Et du coup, il faut aller le plus vite possible. Donc il y a urgence pour éviter un danger. Maintenant, vous avez des situations où la question de la menace est moins évidente, ou au contraire, où elle l'est parfaitement. Dans le cas de l'urgence climatique, vous avez un danger, vous avez une menace qu'on connaît, que les scientifiques ont établi, vous avez des protocoles possibles pour éviter, et du coup, l'urgence, c'est mettre en œuvre le plus vite possible ces protocoles pour éviter que la menace se réalise. Bon. Donc à partir de là, avec cette notion de menace ou de danger, on peut préciser un peu ce que peuvent être des vraies ou des fausses urgences. Hein, si je dois absolument me presser pour aller faire les courses ce week-end en profitant de soldes, mettons, on n'est plus du tout dans la même urgence. Et pourtant, on aura aussi un sentiment de manquer de temps, de devoir courir. Donc cette notion de menace est importante. Dans le cas de l'urgence sociale et économique d'Emmanuel Macron, là, on peut dire que la situation est quand même très, très particulière, parce que je pense que ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que à partir du moment où il n'y a pas eu de réaction rapide aux demandes des Gilets jaunes, eh bien, une menace est apparue. Et cette menace, c'était quoi? C'était d'abord le risque qu'il y ait des morts lors des manifestations, les destructions qu'on a eues dans Paris ou ailleurs, des risques aussi économiques pour les entreprises, tout un tas de menaces sont arrivées, une menace électorale. Et donc le gouvernement s'est trouvé dans l'urgence de devoir prendre des mesures dans l'urgence, qui renvoie à une vraie détresse économique et sociale, mais dont on pourrait se demander si elle doit être traitée de façon si précipitée.
La notion de danger, la notion de détresse, Claude Almos, ce sont des choses qui parlent à la psychanalyste que vous êtes par rapport justement à cette thématique de l'urgence?
Ah ben bien sûr, c'est par exemple, tout à fait, enfin, ce qui vient d'être dit me semble tout à fait fondamental. Par exemple, ça permet de faire une différence entre la peur qui est un objet réel et l'angoisse qui est un objet imaginaire. Dans une situation où on a peur parce qu'on a peur parce qu'il y a un danger réel, effectivement, là, il y a urgence. Ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est ce qui a été dit sur la situation économique. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je prendrais le problème plutôt par l'autre côté, par le côté des gilets jaunes. Je crois que ce qu'a fini par entendre le gouvernement, c'est qu'il y avait un sentiment d'urgence chez les gilets jaunes. Et ça n'avait pas été entendu parce que, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre que vous avez cité, c'est ainsi que les hommes vivent, c'est la gravité des atteintes au jour le jour, des atteintes psychologiques que la crise économique fait, que leur situation économique fait subir à des millions de gens aujourd'hui. Et je crois que c'est parce qu'on n'a pas pris la mesure de à quel point ces gens étaient détruits, c'est-à-dire que on pense que, si vous voulez, on vit dans une société qui considère que la psychologie, ça s'arrête à la vie privée et que le reste, la vie sociale, la vie professionnelle, ça peut générer éventuellement du stress, mais que ça ne touche que les avoirs et pas l'être. C'est pas vrai, et quand on écoute des gens, on sait que ça n'est pas vrai. Quand on n'a pas d'argent, on a par exemple, le jour après jour, pas droit au désir et pas droit au plaisir, très très bêtement. On ne peut pas manger ce qu'on aurait envie de manger. On est obligé de manger seulement ce qu'on peut s'acheter. Si encore on peut s'acheter quelque chose, ça veut dire on est exclu du désir, on est exclu du plaisir, on est exclu des projets. C'est-à-dire on est exclu de tout ce qui, pour tout le monde, rend la vie vivable et est absolument indispensable. Alors on supporte, et puis un jour où on s'écroule dans la dépression, ou bien on explose. Et je crois que c'est cette gravité-là, tout d'un coup, ce sentiment d'urgence qui a quand même fini par être entendu, et à juste titre, me semble-t-il, et qui a fait que ces mesures, enfin, on a pu comme ça décréter l'urgence économique.
Sur ce que vous disiez d'ailleurs dans le livre qu'on a cité, Claude Almos, sur une forme d'individualisation finalement du malaise, je pense que Christophe Bouton serait pas en désaccord avec vous, puisque j'ai notamment relevé cette phrase dans votre livre, Le temps de l'urgence. Le plus souvent, l'urgence est réduite à un problème psychologique qui appelle des stratégies individuelles sur l'art de bien gérer son temps. À trop psychologiser l'urgence, on méconnaît les mécanismes sociaux qui l'imposent. Et justement, en termes de mécanismes sociaux, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu, Sébastien Ledoux, ce que vous avez écrit dans cette tribune que j'évoquais en tout début d'émission sur ce conflit de temporalité qu'il peut y avoir entre l'urgence climatique et l'urgence sociale. C'est-à-dire en quoi l'une cherche peut-être, ou en tout cas est utilisée pour masquer l'autre.
Alors, c'était sur la question de fin du mois et l'opposition déclarée
fin du mois et fin du monde.
Et évidemment que les deux sont compatibles, puisque ça a été dit. Hein, donc, mais c'était pour montrer que, effectivement, on était sur des politiques de prévention. Et je pense qu'il faut revenir sur cette dimension de prévention des risques. Ça me paraît fondamental dans cette question d'urgence, parce que toute la société maintenant est tournée autour de cette question de prévention des risques. Donc, ce qui est une vision aussi de la temporalité de notre rapport au présent, mais aussi à l'avenir. Et pour revenir à cette tribune, effectivement, c'était l'idée que on avait finalement, où le politique mettait en avant la prévention des risques climatiques, donc à plusieurs années, 2020, 2030, 2040, 2050, mais qu'en fait, le souci des gilets jaunes, hein, tel qu'il l'exprimait très très clairement, c'était un souci du présent. Et donc, il y avait une parole, moi que je considère comme citoyenne, une prise de parole citoyenne, pour dire une situation d'urgence, et là je suis tout à fait d'accord, une situation d'urgence liée à des conditions du présent. Et donc il y avait effectivement pour moi quelque chose de très intéressant sur ce mouvement des gilets jaunes, parce que le politique est dans son agenda, on appelle ça une mise à l'agenda du politique, hein, c'est-à-dire à faire des réformes ou à considérer qu'il faut faire des actions préventives. Et donc là on avait le surgissement de quelque chose qui était totalement inattendu, le mouvement des gilets jaunes, et qui contrariait en fait finalement cet agenda politique.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire que le politique est aussi soumis à à des injonctions contradictoires, c'est-à-dire devoir régler certaines urgences sociales, c'est-à-dire très très vite, et puis des urgences qui seraient des urgences de long terme. Ça peut paraître un petit peu contradictoire dans les termes, mais qui relèvent justement de, enfin, qui ont trait à cette crise climatique, Sébastien Lenoux.
Mais on est effectivement dans des injonctions contradictoires en permanence. C'est tout à fait ça. Et le politique est sommé effectivement de répondre de façon immédiate. Et donc là, on est sur aussi cette dimension d'accélération du temps liée aux communications, liée aux voies de communication, d'information en temps réel, avec des réactions d'internautes, de réseaux sociaux en temps réel. Et le politique se doit effectivement de réagir à des injonctions du temps présent dans l'immédiateté, alors qu'il a aussi comme fonction, effectivement, une fonction de prévention, justement de prendre en compte des risques à venir sur des dizaines d'années. Donc ça, on est vraiment dans cette question de paradoxe, quoi.
Est-ce qu'il y a des formes d'incompatibilité entre ces différentes urgences, Christophe Bouton, bien est-ce qu'elles peuvent être gérées simultanément?
Ce sont effectivement des tensions réelles entre la prévention et la politique liée au réchauffement climatique et le souci légitime pour les personnes concernées de continuer à vivre décemment et de ne pas être sacrifiées à l'aune des générations futures. Ça, c'est un point très important. Mais je pense que c'est quand même un problème, celui du rapport de la politique au temps. Emmanuel Macron a dit qu'il était le maître des horloges. Et donc, au fond, la politique, c'est l'art du temps aussi. C'est-à-dire il faut prendre le bon calendrier, il faut être capable de saisir le kairos, l'occasion, et il faut imprimer le rythme, le tempo. Ce qu'on a constaté, c'est que, effectivement, la détresse des Gilets jaunes n'a pas été entendue. L'occasion, peut-être, de faire un moratoire au début, pour mettre en place des négociations. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette urgence économique et sociale, c'est pas le diagnostic qui est juste, c'est la méthode. Le fait qu'on va régler les problèmes, là, en quelques semaines, le Parlement va travailler pendant les vacances en urgence. Or, ces questions de pouvoir d'achat, de compatibilité aussi entre un effort budgétaire et les impératifs donc du réchauffement climatique, ça prend du temps à gérer. Donc cette tension qui est problématique, et donc l'occasion de négocier en incluant les syndicats n'a pas été saisie. En ce qui concerne le tempo, on a aligné des réformes qui ont touché cette population qui utilise beaucoup les voitures, à savoir, donc bon, avant il y a eu le contrôle technique plus cher, enfin plus contraignant, donc l'augmentation finalement aussi, enfin le projet de supprimer les chaudières à fioul qui touchent beaucoup cette population qui vit à la campagne. Il y avait eu déjà, moi je suis favorable, mais le passage de 90 à 80 km/h comme limite qui touche ces gens parce que quand ils ont 2 heures de route, ils vont rentrer un quart d'heure plus tard à la maison ou partir un quart d'heure plus tôt.
Mais justement, par rapport à notre thème de ce soir, on pourrait se dire, ben tiens, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, on incite les gens à ralentir, mais le ralentissement n'est peut-être pas forcément la réponse à apporter à ce sentiment d'urgence, en tout cas cette forme de tyrannie de l'urgence.
Oui, je pense que c'est pas simplement un problème de ralentissement, c'est aussi un problème au fond de rapport au temps, de liberté par rapport au temps, parce que ce problème de l'urgence actuellement, c'est aussi un problème dans le rapport à l'espace, à la mobilité. On voit que la plupart des gens, des régions où il y a le plus de gilets jaunes, c'est des endroits où les gens vivent à la campagne, ont besoin de voitures pour se déplacer, et il faut aussi dire, ont été chassés un peu des villes par la hausse exorbitante de l'immobilier. Ça, c'est à l'arrière-fond, on n'en parle pas, mais ça joue. Et donc, c'est des gens qui ont une mobilité contrainte, et qui ont trouvé une sorte d'équilibre en vivant loin des centres, en devant prendre la voiture, et qui se retrouvent à ne pas pouvoir, enfin, avoir cet équilibre menacé. Donc il y a aussi des erreurs politiques dans l'agenda, dans le tempo et dans les annonces qui expliquent l'incompatibilité malheureuse entre l'exigence de lutter contre le réchauffement climatique et donc la prise en compte de la vie des gens au quotidien.
Qu'est-ce que ça nous fait, Claude Almos, cette soumission? Peut-être que ce n'est pas une soumission totale, il y a une forme aussi peut-être de servitude volontaire, mais restons quand même sur cette idée d'une soumission à l'urgence. Qu'est-ce que ça nous fait à nous individus et à nous sociétés?
Mais en tout cas, au niveau des individus, on voit très bien ça. Alors pour des urgences qui ne sont pas dictées par des nécessités absolues, comme les urgences de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou le fait d'envoyer un SMS, etc., ça porte atteinte. Et on voit ça très fort avec les enfants et les adolescents, puisque la grande plainte des parents aujourd'hui concernant les adolescents, c'est souvent le temps qu'ils passent sur leur tablette et leur téléphone. Ça porte atteinte à la capacité de réflexion. Pouvoir réfléchir, ça demande de prendre du temps. D'ailleurs, on le dit quelquefois aux enfants quand on se fâche, mais enfin, tu pouvais pas réfléchir un petit peu. Le raccourci comme ça dans la pensée, on le voit d'ailleurs dans l'orthographe. Enfin, l'orthographe des SMS, c'est quand même quelque chose qui va de pair avec la vitesse de la pensée, cette espèce de fausse urgence de la pensée. Et ça porte atteinte à l'imaginaire aussi, parce que par exemple, ces SMS qu'on envoie à toute vitesse et on attend une réponse à toute vitesse, ça prive de cette espèce de temps où on pouvait imaginer ce que l'autre allait penser, ce qu'il allait répondre, etc. C'est extrêmement... C'est lourd à vivre, beaucoup plus qu'il n'y paraît, et c'est la même chose concernant l'urgence, c'est aussi celle, par exemple, je travaille beaucoup avec les enfants, mais c'est aussi celle des parents par rapport à leurs enfants, où il faut que le temps soit bouché tout le temps, qu'il n'y ait jamais de temps mort, comme je disais tout à l'heure, et donc pas jamais de temps où l'enfant pourrait ne rien faire, s'ennuyer, ce qui peut être très positif, parce qu'au bout de l'ennui, on trouve des choses à faire, et puis simplement rêver, c'est un peu contradictoire avec la poésie, l'urgence.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Sommes-nous condamnés à vivre dans l'urgence? C'est la question que nous posons ce soir à Claude Almos, qui est psychanalyste, à Christophe Bouton, qui est philosophe, et à Sébastien Ledoux, qui est historien. Alors, s'il y a un domaine qui, a priori, est censé échapper, justement, à cette urgence, à cette accélération, on pourrait imaginer que c'est l'histoire, Sébastien Ledoux, est-ce que c'est le cas? Ou bien est-ce que, en tout cas, la notion qu'on peut avoir de l'histoire, du passé, de la mémoire, est elle aussi soumise à cette idée d'urgence?
Alors, selon toute apparence, oui. Selon toute apparence, oui, puisqu'on a parlé effectivement à la fois d'accélération de l'histoire depuis une trentaine d'années, et puis évidemment par rapport à la mémoire, de multiplication des commémorations, des lois mémorielles, tout un tas de processus en fait de patrimonialisation, de panthéonisation, et on s'aperçoit...
Je vous avais reçu pour l'émission politique au moment de la panthéonisation de Simone Veil, c'est vrai, c'est-à-dire qui a été extrêmement rapide, alors je ne sais pas si c'est un phénomène nouveau, mais on pourrait aussi parler de la... Alors, c'est une canonisation, je pense, de Jean-Paul II, qui là aussi a été exigé et fourni très rapidement au-delà des délais habituels.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'il est de plus en plus difficile de laisser du temps au temps, comme disait un président de la République il y a quelques années, dans les années 1980, François Mitterrand. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette appropriation du passé qui se fait aussi, finalement, par ce primat de l'urgence. Et donc, j'y vois aussi une correspondance avec notre débat actuel, qui est la prévention des risques. C'est-à-dire qu'en fait, on a, avec les commémorations, les musées mémoriaux qui ont été mis en place à partir des années 1980 et surtout 1990, finalement des passés qui sont mobilisés pour être mémorialisés, pour être appris, enseignés, et qui sont ceux du XXe siècle principalement, c'est-à-dire de la guerre, de la destruction, des génocides, des massacres. Et on a finalement légitimé toutes ces politiques de mémoire au travers justement de l'anticipation des risques de répétition du passé. Et donc là, je vois qu'il y a une correspondance finalement avec ces questions d'urgence d'aujourd'hui, puisque les passés qui sont le plus mobilisés ou qui ont été l'objet de plus de mobilisation du point de vue politique, mais aussi associatif, médiatique, ce sont des passés finalement de crimes. Et donc dont il s'agit de conjurer la répétition, et donc d'échapper à la répétition de ces passés-là criminels en les mémorialisant. Donc là, on laisse évidemment un point d'interrogation. C'était le livre de Sandrine Le Frant et Sarah Gainsbourger qui a parlé de ça, à quoi servent les politiques de mémoire. Donc il y a un point d'interrogation sur ces politiques-là. Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est cette correspondance-là, c'est-à-dire qu'on est encore sur ces anticipations du risque, en fait.
l'urgence, elle aurait cette utilité-là, parce que, Christophe Bouton, il faut bien aussi se demander pour quelle raison, finalement, dans autant de domaines de la vie, que ce soit la vie au travail, la vie politique, dans la vie privée, l'urgence semble de plus en plus primée. C'est bien qu'il doit y avoir un intérêt, ou peut-être une efficacité derrière. Est-ce que ça serait alors de conjurer les risques? Encore que si on parle de l'urgence climatique, on voit bien que on nous parle de cette urgence-là, et pourtant, les choses n'avancent pas très vite. Ça peut peut-être même avoir d'ailleurs l'effet inverse, c'est-à-dire d'encourager la procrastination, de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui.
Oui, j'ai tendance à dire que trop d'urgence tue l'urgence, au sens où quand tout devient urgent, il y a une lassitude par rapport à cela, les objectifs, les menaces sont noyées dans une sorte de notion commune, dans l'idée qu'il faut toujours aller très vite et que par conséquent, les gens finissent par être moins réactifs au problème de l'urgence, c'est certain. Maintenant, je pense quand même, en ce qui concerne, je reviens à ce que disait Sébastien Ledoux tout à l'heure, les politiques de commémoration, je pense que c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une utilisation du passé au service du présent qui peut rentrer dans ce que François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire une sorte de primat du court terme. Mais je pense que les politiques de la mémoire, si elles sont menées sous le contrôle des historiens, sont extrêmement utiles pour sortir de ce court terme, cette immédiateté, pour donner un peu de profondeur historique. Oui, aussi pour faire prendre conscience aux gens que la répétition de certains passés violents, même si on raisonne toujours par analogie, est dangereuse. Et donc, moi, je pense qu'il faut pas mettre dans le même sac toutes les politiques de la mémoire et que, au fond, la mémoire, à partir du moment où elle est fondée sur l'histoire, c'est la profondeur historique, c'est le recul, et c'est donc ça peut être un remède contre l'urgence qui est toujours concentré sur le court terme et le moment immédiat. Et la véritable urgence ne se soucie pas du passé. Elle se soucie du présent et du futur immédiat. Par ailleurs, je note que le rapport au passé aujourd'hui est aussi plus complexe parce que vous avez des références à la Révolution. Et ça, c'est pas un passé de crime. On parle aujourd'hui de cahier des doléances, et puis on a l'impression que le prix du carburant d'aujourd'hui, c'est un peu le prix du blé de l'époque. Donc il y a aussi une manière de réinvestir un passé révolutionnaire, avec qui est sans doute mythifié, idéalisé, pour construire des luttes dans le présent. Et cette utilisation du passé, on peut pas la réduire à une question d'urgence.
Sébastien Ledoux, juste pour...
Oui, alors justement, je trouve que c'était aussi la nouveauté de ce mouvement des Gilets jaunes, de puiser dans cet imaginaire de la Révolution française, qui allait finalement dans une sorte de contre-évolution de ces commémorations dites négatives, pour reprendre le terme de Paul Ricoeur dans les années 1990. C'est aussi ce qui m'a interpellé. C'est-à-dire qu'on n'était plus du tout dans ce cas de figure-là de passé criminel, mais on était à nouveau dans un cadre revendicatif à mobiliser la période dite révolutionnaire qui avait quand même assez largement disparu des politiques de mémoire.
Alors il y a le passé qui est mobilisé justement par les Gilets jaunes, Claude Almos, et puis il y a aussi la façon dont est restitué ou dont sont restitués ces événements, que ce soit justement ce mouvement ou par exemple la dernière attaque terroriste qui a eu lieu la semaine dernière à Strasbourg, avec des chaînes d'information en continu, avec des réseaux sociaux qui sont alors particulièrement dans l'immédiateté. Là aussi, qu'est-ce que ça fait d'être soumis à cette immédiateté et notamment peut-être d'ailleurs en premier, à des images, c'est-à-dire qu'on vit en même temps que tout le monde ce qui relève du présent sans le moindre recul.
Alors c'est compliqué parce que concernant les attentats, la peur est normale parce qu'il y a un objet réel, mais elle est accentuée et transformée en angoisse. Enfin, la différence entre les deux étant que quand on est dans la peur, on peut prendre des mesures. Quand on est submergé par l'angoisse, on a plutôt tendance à se mettre en danger. En tout cas, on a beaucoup plus de mal à se protéger par ces images parce qu'effectivement, on est absorbé dedans. Et par exemple, c'est très important d'expliquer aux enfants, mais à certains adultes aussi, que sur une chaîne chaînes d'infos en continu à la télévision, quand on voit 15 fois une explosion, bah, il n'y a pas eu 15 explosions, il y en a eu une seule, et c'est juste l'image et, qui repasse 15 fois. Et c'est, pour un enfant, un enfant petit, il vaut mieux qu'il ne regarde pas ça, mais même un adolescent, même un adulte, c'est assez difficile à entendre, et ça devient quelque chose d'absolument vertigineux, et qui fait que, encore une fois, on peut avoir à se protéger.
On peut avoir du mal à se protéger. Je pense que c'est le petit mot qui nous a manqué dans ce que vous disiez. Et comment on fait justement pour se protéger, confronté à ces urgences permanentes, Claude Almos?
J'ai pas de remède de miracle. Si j'en avais, ça se saurait. Je crois qu'il y a quelque chose à notre époque, au moment des attentats, à inventer à la fois pour chaque personne et collectivement. Ce qui est un peu rassurant, c'est que ça s'est passé à d'autres époques, que ça se passe aujourd'hui dans d'autres pays et que les gens survivent. Donc s'ils y arrivent, on devrait pouvoir y arriver aussi. Mais il faut vraiment inventer, c'est-à-dire à la fois se rendre compte qu'il y a un vrai danger, donc il faut faire attention. Et en même temps, essayer, si c'est possible, ce qui était difficile après tous les attentats qu'il y a eu dans Paris, par exemple, de penser que c'est pas, chaque fois qu'on prend le métro, il n'y a pas forcément une bombe ou un terroriste dans le wagon. Alors, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Je crois qu'on sous-estime, là aussi, je disais qu'on sous-estimait les souffrances dues à la vie sociale en matière d'économie, mais là aussi, on sous-estime à quel point il faudrait vraiment inventer les choses. Et en tout cas, moi, je tiens beaucoup à expliquer aux gens, parce que ça me paraît essentiel, que la peur est normale. Parce qu'on a entendu tellement de discours au moment des attentats en disant que mais non, faut pas avoir peur, il n'y a qu'à pas avoir peur. Et puis, voilà. Ah non, la peur est absolument normale. Et c'est si on peut le reconnaître, l'admettre, accepter qu'il va falloir qu'on vive avec, que peut-être qu'on va trouver des moyens, comme avec un conjoint ou une conjointe désagréable, de vivre avec, mais c'est très difficile.
Sébastien Ledoux.
Oui, sur cette médiatisation des attentats, on a la revue Mot, Langage du politique, qui vient de sortir justement un dossier spécial sur les discours médiatiques post-attentats, et donc notamment ceux de 2015. Et ce qui ressort en partie, hein, pas que ça, mais en partie, c'est qu'il y avait, et donc ça continue avec Strasbourg la semaine dernière, il y avait une sorte d'injonction paradoxale par les médias, c'est-à-dire qu'on a une couverture très large avec des images très choquantes et donc qui tournent en boucle, et en même temps une sorte de discours appelant à prendre de la distance avec justement ces faits. Mais justement ces faits qui sont montrés en boucle ne nous permettent justement pas de prendre de la distance. Et là il y a vraiment une réflexion à avoir au niveau des médias sur les retombées de ces discours médiatiques à la télévision notamment, et du traitement médiatique des attentats.
Après les attentats de novembre 2015 en particulier à Paris, a été décrété l'état d'urgence avec un déploiement important de militaires, et moi je l'avais déjà raconté sur cette antenne, pardonnez-moi, je vais le refaire, mais il y avait des militaires qui étaient postés en face de chez moi, et j'ai jamais réussi vraiment à savoir, Christophe Bouton, si c'était quelque chose qui me rassurait ou qui m'inquiétait, c'est-à-dire l'état d'urgence, est-ce que on se dit bah ça y est, c'est l'état finalement qui vous prend aussi en charge, qui vous protège, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui vous dit que attention, il y a une menace, vous êtes en danger? Est-ce que c'est pas ça aussi un des problèmes qui est posé par cette notion d'urgence? C'est-à-dire on ne sait pas très bien finalement c'est à quoi ça nous sert ou en quoi ça nous dessert, disons.
Oui, cette question de l'état d'urgence, elle est très ambiguë. Déjà, dans la notion d'urgence, il y a l'idée d'une suspension des règles habituelles. Donc c'est ça l'idée d'un état d'urgence, où certaines libertés sont restreintes, certains pouvoirs des préfets sont élargis. Et donc, ce qui fait qu'en général, beaucoup de juristes sont très réservés par rapport au choix d'un gouvernement de décréter l'état d'urgence. État d'ailleurs qui doit être contrôlé très régulièrement par le Parlement. Et donc, on retrouve là l'idée de suspension de règles. Donc ça, déjà, ça fait un peu peur. Alors, quand c'est l'urgence médicale, la suspension des règles, c'est quoi? C'est qu'une ambulance fonce dans les rues en faisant abstraction du code de la route. Ça, c'est permis. Mais dans l'état d'urgence, on se dit, après tout, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la démocratie aussi? Alors maintenant, je dirais que d'un autre côté, il y a la nécessité de protéger d'une menace réelle. Et par exemple, là, on est passé à l'état le plus important du plan Vigipirate, je crois. C'est donc urgence attentat. Bon, ça implique quoi? Ça va impliquer peut-être plus de personnes mobilisées. Il y a des soldats qu'on croise dans les rues, on en voit dans les gares. Bon, je note quand même, dans le cas de l'attentat de Strasbourg, si j'ai bien compris, que il y a personne qui s'était enfui et tombé sur une patrouille qui a peut-être limité le nombre de morts, hein, puisqu'il y a eu un échange de coups de feu. Donc d'un point de vue concret, on peut penser que cette situation d'urgence, je ne pense pas que là on en soit à l'état d'urgence à nouveau, mais au moins un niveau élevé du plan Vigipirate nous protège d'un danger réel. On est, encore une fois, dans une menace véritable. Et c'est ça, à mon avis, le critère de base pour apprécier les urgences.
Il y a aussi un phénomène d'urgence dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais qui relève de la vie quotidienne. C'est-à-dire, alors on pourrait penser d'ailleurs que c'est typiquement lié au mode de vie parisien, puisqu'on sait bien que les Parisiens sont toujours en train de courir dans le métro, dans la rue en permanence. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'ivresse de l'urgence, Christophe Bouton? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être aussi quelque chose de stimulant, qui peut être une forme de moteur?
Oui, alors à différents niveaux. Dans son livre « Le culte de l'urgence », la sociologue Nicole Aubert a interviewé des cadres qui disaient se shooter à l'adrénaline, et elle parle d'ivresse de l'urgence parce que c'est des gens qui ne peuvent agir que sous l'aiguillon d'une deadline. Et donc ils aiment ça. Maintenant, le problème, c'est que si leur comportement crée des méthodes de management ou confirme des méthodes de management qui s'imposent à tous leurs collègues, ça devient problématique parce que tout le monde n'est pas comme cela. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, il peut y avoir aussi une urgence créatrice. Hein, je pense à Proust, à la fin du temps retrouvé, qui a conscience qu'il peut mourir, qu'il n'a pas encore écrit son œuvre. Et cette urgence-là, ce sentiment de la mort qui se rapproche, eh bien, le pousse à écrire. Hein. Donc, je pense que, au fond, la question de l'appréciation de l'urgence doit être contextuelle, et je ne la rejetterai pas en bloc. Je pense qu'il ne faut pas en faire un mode de temporalité dominant. Il faut voir au cas par cas, de quoi on parle, de quel danger il s'agit, etc.
Ces cadres pressés qui fonctionnent à l'urgence, vous devez en croiser de temps en temps, Claude Almos.
Mais vous savez, il n'y a pas que la jouissance, la passion de l'urgence. Il y a aussi, pour beaucoup de gens, le vertige de l'urgence. Et par exemple, face au phénomène climatique, on le voit très bien. Penser le climat, mais simplement pour le traduire en gestes, ces fameux gestes écologiques qu'on reproche aux gens de ne pas faire assez, ça suppose de penser beaucoup plus loin qu'on ne pensait avant, de penser plus loin dans l'espace, de penser plus loin dans le temps. Et il y a une sorte de vertige. Et dans l'urgence, il y a cette idée qu'on va plus pouvoir prendre son temps. Voilà, et c'est très important pour un être humain de prendre son temps. Et par exemple, dans le développement d'un enfant, ben, on dit toujours aux parents qu'il faut bien sûr le pousser en avant, mais il faut le laisser prendre son temps, même pour le quotidien. Et à notre époque, beaucoup d'enfants n'ont plus le temps de prendre leur temps. Donc il y a aussi un vertige. C'est vraiment l'urgence, c'est vraiment un domaine dans lequel il y a tout et son contraire en permanence.
Dans le monde académique auquel vous appartenez, vous, Sébastien Ledoux, est-ce que vous sentez aussi que ces injonctions-là, elles existent quand on est historien, ou bien vous êtes assez préservé, on va dire, par ce phénomène?
Alors, quand on est historien travaillant sur la mémoire, on est quand même soumis à un certain nombre de demandes de par les médias, puisqu'il y a une actualité, une très forte actualité de la mémoire très régulièrement, et évidemment, pour ne pas parler du centenaire, dernière actualité en date avec la polémique autour de Pétain. Bon, voilà, donc on est vraiment sur des débats, des polémiques, et donc sommé régulièrement de réagir. On n'est pas obligé de le faire d'ailleurs, mais dans les médias, effectivement, ces injonctions-là sont très présentes, surtout quand on travaille sur ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Je voulais juste revenir sur l'ambiguïté que vous releviez tout à l'heure entre sentiment de sécurité ou pas par rapport à la présence de militaires. Je pense qu'effectivement, la question de l'urgence, elle soulève aussi la question de l'anticipation des risques, comme on disait, mais à force de mettre en avant la nécessité d'anticiper des risques, la question c'est, est-ce qu'on fragilise pas, est-ce qu'on présuppose pas une fragilité de l'individu et de la collectivité?
C'est une question. Comment est-ce que vous répondriez en 30 secondes à cette question, Christophe Bouton?
Oui, j'ai du mal à réagir dans le genre. Non, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a une logique de prévention. Et moi, je préfère quand même le scénario prévention, réflexion, action au scénario qu'on a un peu en ce moment, qui est le scénario urgence, réaction, précipitation. Hein, il me semble qu'un point fondamental, justement, c'est de pouvoir prendre son temps. Ça vaut pour les individus, ça vaut pour la politique et ça vaut pour les logiques de prévention aussi.
Ça vaut aussi pour la radio, puisqu'on avait quand même 40 minutes pour en discuter, mais pas une de plus, car il est bientôt 19h. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sébastien Ledoux, Claude Almos et Christophe Bouton, les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site internet franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Guillaume Laguigné, émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son Kevin Boisseau. La dispute avec Arnaud
c'est
Laporte.
C'est comme ça que ça s'appelle. Hein, Jo. Merci de vous en souvenir, Hervé Gardette. C'est bien dans 3 minutes.
Ouais.
On va parler de théâtre ce soir. Mm-hmm. Et demain, la question du Grain à Moudre.
L'engagement associatif est-il menacé par le désengagement de l'État ? Engagement, désengagement,
ouais, vous avez fait mieux, mais le sujet est intéressant. Le titre, bon, peut-être le retravailler d'ici demain.
Pas mal, moi je trouve.
On verra. Bon, on votera plus tard.
D'accord.
Merci beaucoup, Hervé.
À demain.